J'aurais aimé vous projeter une diapositive ce matin, mais bon, problème technique, je vais vous la décrire. Et comme vous ne manquez pas d'imagination, vous allez vous la représenter. Nous avons fait cette diapo il y a quelques dizaines d'années en Espagne, au sud de Barcelone, à Tarragone exactement. Une église, devant cette église, un grand socle, sur ce socle, un homme. Drapé à la manière romaine, chevelure et barbe abondante, une épée au centre du corps, droite, longue, et sous le bras droit ou gauche, je ne sais plus, un gros bouquin. Et je vous aurais demandé, connaissez-vous cet homme ? Bon, vous ne pouvez pas le reconnaître, bien sûr, ne l'ayant pas fréquenté, mais le connaître. Et c'est la question que nous posons ce matin. Connaissez-vous cet homme, Paul ? Paul l'apôtre, le grand apôtre. Bien sûr que par le texte biblique, nous connaissons le grand apôtre. On connaît bien la stature exceptionnelle de l'homme que quelques exemples suffisent à résumer. On connaît sa place unique par la révélation qui lui a été faite du plan de Dieu, du salut par le moyen de Jésus. Nous le connaissons par l'importance de la littérature biblique à laquelle elle a donné lieu. Il faut en gros la moitié du livre des Actes des Apôtres pour décrire son œuvre. Sa pensée remplit la quasi-totalité des épîtres. En gros, à l'échelle du Nouveau Testament, c'est du Paul à 50%. Nous connaissons aussi la destinée exceptionnelle de Paul. Exceptionnelle par son évolution, fabricant de tentes au sens matériel à l'origine. Il devient constructeur d'églises, mais d'églises au sens de communauté rassemblant des croyants. Sur son passage, des églises partout, parce que exceptionnelles aussi, et son rayon d'action dans lequel il développe une énergie tout aussi exceptionnelle. Tout le nord du bassin méditerranéen, de Jérusalem jusqu'à Rome, en passant par les pays d'Asie mineure, la Grèce, sans oublier les îles. Exceptionnelle aussi, la façon dont il s'ouvre à sa mission. Sur le chemin de Damas, un jour, il tourne sa veste. Puis quel retour de veste ! Persécuteur de Jésus, il devient son infatigable serviteur. Il témoigne de lui à tous, depuis les plus simples membres du peuple jusqu'aux plus hauts dirigeants de la nation. C'est par lui que l'influence de l'Évangile va commencer à s'étendre au monde entier, à la surprise générale en quelque sorte, parce que ceux qui avaient voulu le détruire en crucifiant Jésus vont le voir ressuscité partout. Oui, Paul, l'homme hors du commun, unique dans sa stature, dans ses aptitudes, dans sa mission. Nous connaissons cet homme-là. Mais l'homme de tous les jours, le connaissons-nous ? C'est-à-dire l'homme tel que nous aurions pu le rencontrer, à la manière de ceux qui lui ont été proches, et qui pour la plupart ne connaissaient rien de l'ensemble de son œuvre d'ailleurs, en tout cas pas au niveau où nous la connaissons aujourd'hui. Nous l'aurions rencontré dans une de ses visites dans notre église. Nous l'aurions entendu prêcher. Un contact personnel se serait peut-être installé entre nous. En tout cas, nous l'aurions vu vivre. Quel homme aurait été Paul pour nous? Oh, pourquoi cette question, au fait? Bon, ben d'abord parce que on s'interroge toujours sur ce que peut cacher la notoriété. Des vedettes adulées se révèlent insupportables à leurs proches. Au contraire, on s'étonne parfois de la simplicité relationnelle de certains grands de ce monde. Oh, aussi, du coup, parce que on suspecte la double vie. Une vie publique, une vie privée, on connaît ça. Bon, pas forcément d'expérience, hein. Et peut-être surtout, parce que, s'agissant d'un grand personnage comme lui, nous mesurons la distance qui nous sépare de lui. C'est un homme d'exception et nous sommes des gens ordinaires. Rien de commun entre lui et nous. Certes, ça ne nous empêche pas d'aimer les héros. Et Paul en est un. Son histoire nous passionne, son œuvre nous enthousiasme, mais nous ne sommes pas des héros. C'est si vrai pour Paul que cela lui a valu un jour une curieuse expérience. Il est à Lystre avec Barnabas, il guérit un infirme, et voilà que la foule déclare les dieux venus sur terre. Et on s'apprête à leur offrir un sacrifice. Réaction consternée de Paul et Barnabas, déchirant leurs vêtements. « Amis, que faites-vous là? Nous ne sommes que des hommes, nous aussi, semblables à vous. » Un homme, au même titre que nous, Paul, eh bien c'est ce que j'ai voulu vérifier en parcourant les Actes des Apôtres, en parcourant les Épîtres, et j'ai bel et bien rencontré cet homme-là. Un homme qui fait front à toutes les difficultés de la vie, du service chrétien, sans jamais flancher. Non. Un serviteur de Dieu sans souci, Dieu s'occupe de tout. Non, un homme dur, lointain dans ses contacts, insensible aux problèmes des autres, lui qui supporte tout. Non, voici l'homme que j'ai trouvé. Et voici trois exemples pour le montrer. 1. Paul a besoin, parfois, de l'encouragement des frères. 2. Paul s'inquiète de l'attitude des frères à qui il vient d'écrire. 3. Paul, une maman pour ses frères. Le grand Paul. Tout ça, vraiment? Paul a besoin de l'encouragement des frères. Paul est prisonnier. Il est conduit à Rome devant comparaître devant l'empereur. Voyage de plusieurs mois. Une partie s'effectue par mer et c'est le naufrage. Alors, je suppose l'épisode connu de vous tous. Épisode dramatique, puisque tout sera perdu et que les vies humaines ne seront sauvées que de façon providentielle. Quand vous lisez ces textes, épisode qui démontre le courage de Paul, la foi de Paul, le calme de Paul, hors norme, qui semble tout maîtriser. Vous voyez dans cette histoire, en particulier, l'ascendant qu'il exerce sur les autres, en l'occurrence, les occupants du bateau en perdition. Les marins professionnels, l'escorte militaire, soldats et officiers censés le protéger. Tous autour de lui vont suivre les consignes de cet incroyable capitaine. Et puis, si l'on continue, quelques péripéties encore. Encore 3 mois d'attente, de voyage. Et Rome, enfin, à l'horizon. Et voilà ce que nous rapporte Luc, observateur attentif, sur un instant saisi par lui en fin de voyage. Je vous le lis. Les frères de cette ville, donc Rome, qui avaient eu de nos nouvelles, sont venus à notre rencontre jusqu'au forum d'Appius et aux 3 tavernes. Quand il les a vus, il a remercié Dieu et a pris courage. Et une autre traduction met la chose un peu plus en évidence en disant ceci. Paul rendit grâce à Dieu, 2 points, il avait repris courage. Quand il les a vus, quel détail, quelle banalité, ils n'ont rien fait d'extraordinaire, ces Romains. Mais, ils étaient frères, ils étaient là, et ils l'étaient au moment où le courage qui avait permis à Paul d'affronter et de dominer la tempête lui faisait défaut. Ce regard de Paul lève le voile sur le regard que Paul porte lui-même à ses frères. Même sur ceux qu'il ne connaît pas encore personnellement, parce que c'était le cas pour les chrétiens de Rome. Parce que, en chaque frère, il lit et il reçoit la grâce de Dieu. Ce regard dit, nous dit, que le frère à nos côtés est un encouragement pour nous par sa seule présence. Oh, il n'en est peut-être pas spécialement conscient lui-même, mais il est là. Et c'est nécessairement un encouragement pour les autres. Nous sommes donc tous, étant là, des encourageurs de frères. Oh, à minima, dirait-on, parce qu'on espère beaucoup plus d'encouragement que cela. Mais en tout cas, cette possibilité d'encouragement est celle de tous. Parce que finalement, cette présence résulte de sa volonté de nous rencontrer. Puisque on n'est jamais venu là sans avoir voulu venir, hein. Ni peut-être sans avoir préféré venir plutôt que de faire autre chose. Et puis venir peut exiger aussi un effort particulier. Ceux qui ont rejoint Paul aux 3 tavernes, ils avaient fait 50 kilomètres. Et ceux qui sont venus jusqu'au forum d'Appius, 70. C'est vrai qu'à l'époque, on n'avait pas de voiture. Alors, on ne se plaignait pas des distances. 2 simples leçons. Personne n'est suffisamment grand, suffisamment solide pour pouvoir vivre la vie chrétienne tout seul. Pas même l'apôtre Paul. Bien sûr, dans les moments difficiles, mais quand tout va bien aussi. Car il est bien probable, et ça c'est une certitude absolue concernant notre propre vie, que sans l'Église, notre attachement au Seigneur se serait affaibli depuis longtemps. Ne croyons pas, de même, que les serviteurs de Dieu, ceux dont on se dit pour les avoir vus à l'œuvre et les bien connaître, qu'ils sont aptes à tout supporter, Ne croyons pas qu'ils n'auront jamais besoin du plus petit de nos encouragements. Paul a repris courage en voyant arriver les frères de Rome. C'est parfois après l'épreuve qu'on flanche. On sait cela. C'est peut-être un peu le cas de Paul. Certes, l'horizon pour lui restait encore sombre. Il serait jugé par l'empereur. Certes, le voyage avait été particulièrement long, des mois et des mois, donc éprouvant. Et bien puis, après tout cela, et bien il avait fini par craquer. J'ai de cela une petite illustration. Madame Aucourt, ben, je cite son nom parce que certains l'ont connu. Rien de comparable avec l'apôtre Paul. Mais c'était un membre de notre église et quelqu'un, une sœur qui était connue comme forte dans son attachement au Seigneur, dans sa fidélité à l'église, dans la prière. On pouvait se dire que s'il y a des frères ou des sœurs qui tiennent, oh, voilà le parfait exemple. Et puis il lui est arrivé, je ne sais plus quelle maladie, en tout cas, une grande faiblesse physique rendait difficile qu'elle se fasse à manger. Et on a appris que le soir, une voisine venait lui apporter la soupe. Et on a appris aussi qu'elle avait dit, « Mais mes frères, quand même !» On pensait qu'elle supportait tout. Madame Aucourt, pas de souci pour elle. Et pourtant, la soupe des frères lui aurait apporté un bien meilleur encouragement que la soupe de la voisine. Deuxième raison, deuxième exemple. Paul s'inquiète au sujet de ce qu'il a écrit aux frères de Corinthe. Alors, il y en a une tartine, hein, les Épître aux Corinthiens. Et c'est Paul lui-même qui raconte, aux Corinthiens d'ailleurs, ce long moment d'inquiétude qu'il a eu un jour à leur sujet. Alors, je vous lis l'essentiel. Je suis allé à Troas pour y annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. J'y ai trouvé, grâce au Seigneur, dit-il, des portes largement ouvertes à mon activité. Cependant, je n'ai pas eu l'esprit tranquille. Inquiétude. Je n'ai pas eu l'esprit tranquille parce que je n'y avais pas retrouvé mon frère Tite. C'est pourquoi j'ai pris congé des croyants, je suis parti pour la Macédoine, et il continue un peu plus loin, à notre arrivée en Macédoine, nous n'avons pas eu d'un instant de repos, nous avons connu toutes sortes de détresses, conflits au dehors, conflits au dedans. Mais Dieu, qui réconforte ceux qui sont abattus, nous a réconfortés par l'arrivée de Tite. Voici l'homme que nous trouvons ici, Paul, inquiet. Par les 10 circonstances difficiles du moment, non ? Tout baigne à Troas, la porte est grande ouverte à son action, au progrès de l'Évangile. C'est l'absence de Tite qui le contrarie. Et une inquiétude qui le tenaille durablement. Il ne tient pas en place. Tite est peut-être en Macédoine. Eh bien, il traverse la mer. Il arrive en Macédoine. Tite n'est toujours pas là. Tite tarde, mais pourquoi donc tarde-t-il? Et, question que nous nous posons, pourquoi Paul tient-il si fébrilement à le retrouver sans patience? Il faut le dire. Il faut en creuser les raisons. Trois raisons viennent successivement au jour, au fur et à mesure qu'on avance dans ce petit texte, comme trois marches à franchir l'une après l'autre pour tout comprendre. Première raison ou première marche. Bien sûr, l'attachement de Paul à ses compagnons de service. Tite en est un, Timothée aussi, et à eux deux, ce sont aux côtés de Paul les porteurs de fardeaux. Paul le dit ainsi, comme une espèce d'évidence, Dieu nous a réconfortés par l'arrivée de Tite. Ouais. Mais si Paul n'est pas en paix maintenant, c'est aussi pour une autre raison, plus profonde, celle-là. Deuxième raison, deuxième marche. Paul le dit dans la foulée de ce texte. Dieu nous a réconfortés par l'arrivée de Tite. Ce n'est pas seulement la venue de Tite qui nous a réconfortés. Et quand vous lisez « ce n'est pas seulement », il faut comprendre, le texte l'exprime par la suite, il faut comprendre, pas surtout, pardon, je suis en train de me perdre là, que c'est pas aussi, mais c'est surtout pour une autre raison. Et cette raison, c'est le réconfort qu'il a reçu de vous. Paul craignait une réponse négative des Corinthiens à sa lettre. En résumé, Paul a écrit aux Corinthiens, et s'il attend Tite avec tant d'impatience et de fébrilité, c'est précisément que Tite doit arriver de Corinthe, que de Corinthe, il va apporter à Paul des nouvelles. Des nouvelles précisément de l'Église qui a reçu sa lettre. Et le souci de Paul est là. L'inquiétude de Paul est là. Plus forte que l'absence momentanée de son précieux collaborateur. Comment les Corinthiens ont-ils accueilli ces propos? Bon, il faudrait rappeler les désordres de l'Église de Corinthe, les discordes de l'Église de Corinthe, les infidélités de toutes sortes graves qui sont une vraie pollution dans cette Église. Paul lui-même et son enseignement, ils sont contestés par certains. Bon, vous saurez tout en lisant un Corinthien. Hein. L'inquiétude de Paul est donc à la mesure du danger qui menace l'Église depuis longtemps et qui s'amplifie avec le temps qui passe. Vont-ils accepter ou vont-ils rejeter ces jugements sur leur situation, sur leurs attitudes, ces plaidoiries pour tenter de le convaincre, ces exhortations insistantes? Vont-ils changer de comportement? Un vrai, un fort souci pour Paul. Paul, l'homme inquiet. On nous propose parfois la vie chrétienne sans souci, avec comme j'aime, vous savez, hein, l'évocation de la pub. On perd ses soucis comme on perd des kilos. On pourrait aussi, dans cette affaire, d'ailleurs, plus justement, surprendre Paul en flagrant délit de manque de foi. Mais ne nous trompons pas de bagages. Des bagages, il en est qu'il faut laisser. À l'invitation de Jésus, le souci du lendemain, de la nourriture, du vêtement, de l'argent, de tous nos besoins personnels. Ces soucis-là, par la foi, Jésus nous conseille de les confier à Dieu, parce que c'est lui qui veut les assumer. Mais c'est l'œuvre de Dieu qui est en cause ici. Cette œuvre que Dieu nous confie. L'inquiétude de Paul, exprimée ici d'ailleurs, n'est qu'un exemple. Paul un jour dresse la liste de tous les dangers qu'il a courus, vous savez, des coups de bâton à n'en plus finir, des naufrages, etc. Et il termine cette longue lettre de la façon suivante. « Et sans parler du reste, dit-il, je porte mon fardeau quotidien. » Deux points, le souci de toutes les églises. S'il est des fardeaux qu'il faut laisser, il en est d'autres qu'il faut porter. Troisième raison, troisième marche. Paul est maintenant tout à son bonheur d'apprécier toutes les bonnes nouvelles qui sont arrivées avec Tite de Corinthe, où la repentance a fait sa belle œuvre. Mais il continue. Et il va leur expliquer, aux Corinthiens, le dilemme dans lequel il s'est trouvé, comme une espèce de longue incertitude, de flottement. Parce que, dit-il, si même je vous ai attristé par ma lettre, je ne m'en repens pas. Si même je m'en suis repenti, maintenant je m'en réjouis. Vous avez bien lu et entendu? Si même je m'en suis repenti, une autre inquiétude taraudait l'apôtre. Il avoue s'être demandé s'il avait bien agi en écrivant sa lettre. Il se met lui-même en cause, le grand apôtre Paul. Oh, se serait-il mis à douter du bien fondé de sa position? Bien sûr que non, il est dans le vrai, il le sait. Il a parlé au nom du Seigneur, dans la fidélité à sa mission, dans son autorité d'apôtre. Mais tant qu'il ignore l'accueil favorable des Corinthiens, il s'interroge, Paul. N'aurait-il pas été fautif d'avoir dit ce qu'il a dit, de l'avoir dit comme il l'a dit, de l'avoir dit au moment où il l'a dit, peut-être pas le moment le plus favorable? À l'inquiétude de Paul, mes frères, il faut ajouter la faiblesse du grand apôtre. Là, je me suis quand même demandé, mais pourquoi donc raconter ça aux Corinthiens maintenant que tout est apaisé, en me disant, moi je l'aurais pas fait. C'est un véritable aveu de faiblesse. Une faiblesse, autrement dit, que nous n'aurions même pas imaginée s'il ne nous l'avait pas dit. Et du coup, il nous aurait paru bien plus solide qu'il ne l'était vraiment. Mais c'est Paul, voyez-vous, il ne cache rien, ni les faits, ni les comportements, et surtout, il ne se cache pas. Au contraire, il s'expose. Il a voulu le dire, Paul, aux Corinthiens et à nous, pour qu'on ne se fasse pas d'illusions sur son compte. Il est transparent, Paul. Il vous laisse voir jusqu'à l'intérieur de lui-même. » quand je parlais de trois marches, on les imaginait montantes pour arriver à un sommet. Elles sont descendantes. C'était d'abord l'inquiétude du retard d'un inséparable collaborateur, oui. Au fond, c'était plus que cela. C'était son incertitude sur le choix des Corinthiens. Et au fond du fond, faiblesse révélée, l'incertitude de Paul et l'inquiétude que cela faisait peser sur lui d'avoir ou non bien agi lui-même. Troisième exemple, bref. Paul, maman pour ses frères. Paul s'adresse ici à l'église de Thessalonique. Il y a fait un court séjour tout au début de l'existence de cette église. Et il leur rappelle quel homme il a été au milieu d'eux avec ses compagnons de service. Il leur dit ceci. Pendant que nous étions parmi vous, nous avons été pleins de tendresse. Pensez au grand homme, hein, Paul. Nous avons été pleins de tendresse, comme une mère qui prend soin des enfants qu'elle nourrit. Ainsi, dans notre vive affection pour vous, nous aurions voulu non seulement vous annoncer l'évangile de Dieu, mais encore donner notre propre vie, tellement vous nous étiez devenus chers. Et puis il ajoute un peu plus loin, et vous savez aussi de quelle manière nous avons agi à l'égard de chacun de vous, comme un père le fait pour ses enfants. Nous n'avons cessé de vous transmettre des recommandations, de vous encourager et de vous inciter à vivre d'une manière digne de Dieu. En résumé, pendant que nous étions parmi vous, nous avons été pleins de tendresse comme une mère, comme un père. Voici l'homme au milieu de ses frères. Dans cette relation-là, tout s'explique, y compris les inquiétudes, par l'amour porté à l'enfant, sa santé, ses besoins, son avenir, ses choix. Ainsi, dans l'Église, dans les multiples situations de ceux qui découvrent l'Évangile, jusqu'à ceux dont la fidélité ancienne est ébranlée. Et connaissez-vous une situation où l'on se sent plus faible que celle-là? Parce que quand on aurait tout fait, lui, le frère, que va-t-il faire? Quel chemin prendra-t-il? Même question pour l'enfant. Nous l'ignorons. C'est ainsi qu'à Thessalonique, Paul avait annoncé l'évangile de Dieu. C'est ainsi qu'à Corinthe, il avait nourri l'ardent mais incertain espoir que les frères changent d'attitude pour retrouver enfin le chemin d'une vraie fidélité. Dans son ignorance, dans ses inquiétudes, dans sa propre faiblesse, il les avait aimés. Et il les avait aimés, tellement aimés, plein de tendresse. Il les avait aimés à ce niveau-là, comme une mère qui prend soin, comme un père qui enseigne. C'est l'amour qui explique tout. Vous l'aurez remarqué, Paul place en premier la mère et en second le père. Alors évidemment, on dira que quand on cite deux choses, il faut bien mettre une d'avant avant, une autre après. Mais quand même, quand Paul insiste en premier lieu sur la tendresse, sur le plein de tendresse, on ne peut pas se tromper. C'est bien une maman qu'il a voulu être. Oh, combien cette image affaiblit celle de l'apôtre dans toute son autorité. Mais tel est Paul. Si je n'ai pas l'amour, dira-t-il aux Corinthiens précisément, je suis rien de plus qu'une trompette résonante. Conclusion. Paul, le grand apôtre. Tout dans sa vie est exceptionnel. L'envergure du personnage, de la mission, des événements. Il était donc légitime, me semble-t-il, de se demander quel homme il a été dans sa vie journalière pour accomplir une pareille destinée. Alors, comment le trouvez-vous? Quand il lui arrive d'avoir besoin de l'encouragement des frères. Comment le trouvez-vous? Quand le tenaille, l'incertitude sur l'accueil que vont faire les frères à son exhortation. Quand il avoue se demander s'il a bien fait de faire ce qu'il a fait, nous dévoilant un personnage mille fois plus fragile que ce qu'on aurait pu penser. Comment le trouvez-vous? Quand son modèle de comportement est dans la tendresse d'une femme qui allait son enfant. Tout est faiblesse en Paul. Extrême faiblesse. Mais c'est la faiblesse de l'amour. Alors, rien de commun, bien sûr, entre l'œuvre de Paul et la nôtre. Mais dans l'homme qu'il a été pour accomplir son immense mission, est-ce que tout ne nous inviterait pas à lui ressembler pour accomplir la nôtre? Dans ce cas, alors, il nous faudra encore régulièrement nous poser la question. Connaissons-nous cet homme ?